qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir, bonsoir. C'est donc sur Infini, Anne. Je suis ravie de vous retrouver pour des succulents plats les uns et les autres pour vous proposer encore des nouvelles recettes. Bonsoir Nathalie,
bonsoir
Théo. Vous allez bien ?
Bah écoute, oui.
On est à un mois, hein, ça y est, on est à un mois, on est dans la dernière ligne droite avant Noël. C'est pour ça que ce soir, j'ai pas fait des recettes trop pesantes non plus, mais un petit peu originales. Voilà. Et toujours bonne et facile à réaliser. Alors, on voit ensemble nos recettes. Pour le départ, j'ai choisi de vous proposer un velouté de tomates. Au crostini de chorizo. Pour cela, il vous faudra 1,5 kg de tomates, un oignon, une gousse d'ail, une branche de céleri, une branche de basilic, ça sera ça pour la finition, un cube de bouillon de volaille, 50 à 75 centilitres d'eau, selon la variété des tomates, selon si elles rendent du jus ou pas. Comme on n'est plus dans la saison, elles vont être un peu plus sèches, donc il faudra bien rajouter 75 centilitres d'eau, du poivre, 2 cuillères à soupe d'huile et 16 tranches de... Alors moi j'ai mis de la ficelle, mais ça peut être de la baguette hein, grillée, tout simplement, c'est juste pour toaster derrière. Une gousse d'ail, ça c'est donc une deuxième gousse d'ail, et puis 16 tranches de chorizo doux. Alors pour ceux qui aiment le chorizo pimenté, piquant, vous pouvez, mais bon, ça va... voilà, moi je ne suis pas chaude pour ça. Je préfère le doux. Pour le matériel, on aura besoin d'une cocotte, d'un couteau, d'un grille-pain, d'une louche, d'un mixeur et puis de 6 assiettes creuses. Et puis pour la suite, j'ai choisi un plat plutôt simple aussi, mais qui va sortir de l'ordinaire, puisque c'est un gratin de spätzle au lardon. Donc il vous faudra 400 g de spätzle sec. Vous verrez ce que c'est les spätzle, parce qu'il y en a certains qui ne savent pas. 100 g de lardon fumé, 40 g de beurre, un blanc de poireau, 150 g de Münster. Donc vous voyez où ça se situe, le spätzle, le Münster. 4 brins de persil plat et du sel et du poivre. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un couteau, d'une grande casserole avec son couvercle, de 2 poêles, d'un plat à gratin et puis une passoire. Et puis on finira par un carré moelleux au pruneau qui est c'est un petit peu comme les barres céréales qu'on mange après le sport ou avant le sport. C'est voilà des barres énergétiques. Vous allez voir les ingrédients, ça va tout de suite vous les rappeler. On aura besoin de 400 g de pruneaux dénoyautés, 2 œufs, 250 g de sucre roux, 300 g de flocons d'avoine, 200 g de farine complète. Moi, je fais avec la farine complète. Après, vous pouvez prendre de la farine blanche normale. Il n'y a pas d'incidence. 150 g de beurre, 2 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à café de levure chimique et 1 cuillère à café d'arôme vanille. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un saladier, d'un fouet, d'une cuillère en bois, d'une plaque allant au four et du papier cuisson, bien évidemment. Voilà. Avant de commencer, Nathalie, est-ce que tu peux nous parler de la tomate ?
Oui. Alors, la tomate, c'est une espèce de plante herbacée du genre Solanum, de la famille des Solanacées, qui est originaire du nord-ouest de l'Amérique du Sud. Elle est largement cultivée pour son fruit, parce que c'est un fruit. Le terme désigne aussi ce fruit charnu. La tomate se consomme comme un légume fruit, cru ou cuite. Elle est devenue un élément incontournable de la gastronomie dans de nombreux pays, et tout particulièrement dans le bassin méditerranéen. L'espèce compte quelques variétés botaniques, dont la tomate cerise, et plusieurs milliers de variétés cultivées. Alors, cultivars identifiés par les appellations ou des marques commerciales. La plante, elle est cultivée en plein champ ou sous abri par les agriculteurs et les horticulteurs sous presque toutes les latitudes, sur une superficie d'environ 3 millions d'hectares. C'est énorme. La tomate a donné lieu au développement d'une importante industrie de transformation pour la fabrication du concentré de tomate, la sauce tomate, le ketchup, le jus de légumes et de conserve. De grandes importance économique, elle est l'objet de nombreuses recherches scientifiques. Elle est considérée comme une plante modèle en génétique. Elle a donné naissance à la première plante génétiquement modifiée, autorisée à la mise en culture et commercialisée de façon éphémère aux États-Unis dans les années 1990.
Merci Nat. Vous voyez, la tomate, c'est vrai qu'il y en a, il existe de plus en plus et c'est génétiquement modifié quand même. Hein. Donc oui. Ça ne sort pas de la cuisse de Jupiter, on va dire. Ce qui n'a rien à voir. Bien, donc pour commencer ce velouté au crostini, je vous rappelle un petit peu les ingrédients. Donc, il vous faudra 1,5 kg de tomates, un oignon, une gousse d'ail, une branche de céleri, une branche de basilic, un cube de bouillon de poule, de bouillon de volaille, 50 à 75 centilitres d'eau, du poivre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 6 tranches de pain, 16 tranches de pain, de baguette ou de pain, c'est comme vous aimez et comme vous souhaitez. Une gousse d'ail, donc vous verrez pourquoi tout à l'heure, et 16 tranches de chorizo doux. Pour le matériel, il vous faudra donc une cocotte, un couteau, un grille-pain et une louche et 6 assiettes creuses et un mixeur. Voilà, donc pour la préparation, il vous faudra à peu près 30 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson. Vous voyez, c'est pas énorme, encore une fois. Donc déjà, on va commencer par laver les tomates. Et puis, pour une version express, on coupe les tomates en dés directement. Et puis, pour la version un petit peu plus gourmande et digeste, on va les peler et les épépiner. Voilà. Moi, c'est plutôt l'express que je recherche, parce que les épépiner, c'est long. Les peler, c'est long, il faut les faire tremper dans l'eau, c'est compliqué. Voilà, donc je fais le côté express, donc je les coupe en dés directement. Ensuite, je vais émincer mes oignons, couper le céleri en petits dés, ou en rondelles, tout dépend du bâton de céleri que vous avez trouvé. Et puis, vous avez haché l'ail. Et on va faire revenir tous ces petits ingrédients dans une casserole. Donc, on met dans la cocotte directement avec de l'huile d'olive. On met l'oignon émincé, le céleri coupé en dés, l'ail haché. Et on fait légèrement doré. Ensuite, vous allez ajouter vos tomates. Une fois que vous avez ajouté vos tomates, vous poivrez, vous versez l'eau dedans. Vous versez 75 centilitres d'eau. Et vous ajoutez le cube de bouillon. Le cube de bouillon, c'est plutôt de la volaille que j'ai choisi. Mais vous pouvez, si vous avez que du bouillon de légumes, vous pouvez mettre du bouillon de légumes, il n'y a pas de problème. Et vous allez cuire pendant 30 minutes. Cuire à feu moyen. Alors vous pouvez couvrir ou pas. Ça dépend si vous couvrez. Moi, je fais mi-couvert, c'est-à-dire que je mets le couvercle, mais je le mets pas en totalité, de façon à ce que ça puisse s'évaporer quand même un petit peu. Parce que si vous mettez le couvercle, ça va bouillir davantage et ça va déborder. Tout dépend de la quantité, de la grosseur de votre casserole. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir faire griller vos tranches de pain. Alors, moi, je le fais au grille-pain. Mais après, vous pouvez le faire différemment. Vous faites griller vos tranches de pain et quand elles sont grillées, pas trop grillées, hein, faut pas que ça soit noir, faut que ça soit juste grillé. Vous allez frotter la gousse d'ail dessus et déposer dessus le chorizo. Donc c'est tout simple. Une fois que votre soupe elle a fait ses 30 minutes de cuisson, vous allez la mixer, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à la mixer une minute, voire plus. Ça va mixer et la peau et les grains à forte vitesse. Comme ça, ça vous fait un velouté. Et plus vous allez mixer, plus les grains vont disparaître. Voilà, et vous n'aurez pas ces petits grains. Si vous pensez que vous avez encore des petits grains, dans ces cas-là, vous la passez au chinois, votre soupe. Ça enlève tous les petits grains. Si vous avez du temps à épépiner et appeler, faites-le. Mais franchement, moi, je ne vois pas l'intérêt. Surtout que dans les grains et dans la peau, il y a aussi des nutriments qu'il ne faut pas négliger. Voilà, ceci étant en passant par là. Ensuite, votre soupe elle est mixée et puis on a vraiment un velouté très fin. On va servir dans des bols ou dans des assiettes, c'est comme vous voulez, dans des assiettes creuses ou dans des bols. Les assiettes creuses, c'est mieux parce qu'on peut mettre plus de croûtons. Et vos croûtons que vous avez préparés, donc qui s'appellent les crostini, vous allez par-dessus mettre, avant de les servir, du basilic ciselé. Donc, vous mettez votre soupe dans les assiettes creuses et par-dessus, vous mettez le crostini avec le basilic ciselé. Voilà, c'est tout simplement facile à réaliser. Alors, ce velouté, vous pouvez le servir froid comme un gazpacho. Oui. Hein, Alors, en apéritif, ça peut être sympa. Avec un biscuit italien, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai le mot qui m'échappe, ou tout simplement, en gazpacho. Sachant que c'est pas du gazpacho, parce que le gazpacho ça sera autre chose. On rajoute d'autres ingrédients. Et que ça se fait plutôt l'été, le gazpacho. Mais bon, c'est de la soupe, le velouté de tomate, vous pouvez le boire froid ou chaud, c'est comme vous le souhaitez. C'est suivant ce que vous souhaitez et ce que vous aimez. On n'est plus dans la période de pique-nique, mais ça peut être aussi un truc sympa
pour
ramener au bureau, ou un pique-nique. Pourquoi pas faire des pique-niques en été, en automne. Enfin bon, c'est pas parce qu'on est en automne que les pique-niques sont interdits. Hein, en ramassant les noisettes qui restent, ça peut être sympa. Voilà, Nathalie, tu as peut-être quelque chose à nous dire sur les crostini.
Alors, les crostini ou crostino au singulier, littéralement petite croûte, sont un hors-d'œuvre ou un antipasto italien consistant en de petites tranches de pain grillé garni. Le pain peut être recouvert de fromage, de viande, de légumes ou peut-être simplement servi avec un peu d'huile d'olive et des herbes ou une sauce. Les crostini sont souvent servis avec du vin, de même que la bruschetta. Il semble que le crostino remonte au Moyen-Âge lorsque les paysans italiens mangeaient le repas sur des tranches de pain plutôt que dans des assiettes. Dans la région de Bologne, les crostini sont éventuellement garnis de frigione. Je pense frigione. Je ne sais pas comment on dit. Je ne parle pas italien.
Frigione. L'apéritif, on en parle justement pour l'apéro. C'est superbe. Vous rajoutez, vous rajoutez un petit peu de gruyère ou de comté dessus ou de parmesan. Comme ça, on est dans l'Italie et vous passez ça au four. Et à l'apéro, mais c'est une tuerie. Pour le peu que même vous rajoutez du chèvre, le chèvre chaud va couler sur le chorizo avec votre pain un petit peu aillé, un petit peu d'huile d'olive sur votre pain, et ça c'est une tuerie. Voilà, c'est tout simple. Je vous mets l'eau à la bouche et juste avant notre pause musicale, c'est fait exprès. On se retrouve tout de suite.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne, dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici pour la suite de nos recettes. Nous allons continuer par le gratin de spätzle au lardon. Pour cela, il vous faudra 400 g de spätzle sec, 100 g de lardon fumé, 40 g de beurre, un blanc de poireau, 150 g de minster, 4 brins de persil, plat, du sel, du poivre. Et pour le matériel, un couteau, une grande casserole, deux poêles, un plat à gratin, une passoire, un couvercle. Voilà, il faut compter à peu près 15 minutes de préparation et 40 minutes de cuisson. Donc, pour commencer, on va prendre le poireau et on va uniquement le blanc du poireau. Le blanc du poireau, on va le couper en rondelles. Le vert du poireau, vous pourrez en faire un potage si vous le souhaitez. Ne le jetez pas, c'est en potage de légumes, ça peut être sympa. Voilà, dans une grande casserole, vous allez porter à ébullition l'eau et vous allez mettre du sel, du gros sel. Moi, je mets à peine une cuillère à café dedans, dans l'eau, et vous allez y jeter vos spätzle. Vous faites cuire le temps qui est indiqué sur le paquet, parce que ça dépend de la marque. C'est comme les pâtes. Moi, j'ai mis environ 18 minutes. C'est parce que c'est marqué dessus 18 minutes. Oui. Mais vous avez des spätzle qui cuisent beaucoup plus vite, sachant que le vrai spätzle, c'est 18 minutes. Voilà, ça met du temps et on n'est pas sur de la pâte al dente. Quand vous avez cuit vos spätzle, vous les égouttez et vous allez les passer sous l'eau pour stopper la cuisson, sous l'eau froide pour stopper la cuisson et puis les égoutter de nouveau. Donc après, vous les mettez de côté et dans une poêle, vous faites revenir 20 g de beurre et vous allez imprégner vos pâtes. En fin de compte, on fait revenir du beurre et on va les mélanger aux pâtes de façon à ce que ce soit qu'elles ne collent pas entre elles, en fin de compte. Voilà, donc 20 grammes, c'est suffisant pour la quantité de spätzle. Ensuite, vous allez donc faire fondre dans une autre poêle à feu doux vos émincés de poireaux. Je vous rappelle que les émincés de poireaux, quand je dis émincés, c'est en rondelles, hein, petite rondelle, et on va les faire dorer et fondre à feu doux tranquillement et pendant 10 minutes. Et vous allez mettre un couvercle par-dessus votre poêle. Quand vos 10 minutes seront passées, vous allez voir votre poireau, il sera un petit peu translucide, il sera cuit. Vous allez rajouter le lardon et poursuivre la cuisson 2 minutes. Parce qu'on veut pas que le lardon soit grillé, on veut que ça soit juste cuit, puisqu'il va recuire après avec le four. Et quand vous avez fait revenir vos poireaux, vos émincés de poireaux, vos lardons, 2 minutes, vous allez incorporer vos spätzle à ce mélange. Vous versez la moitié dans un plat à gratin, donc la préparation de spätzle et de poireaux fondus. Vous allez donc verser la moitié dans le plat à gratin. Vous allez parsemer de minster coupé en tranches. Donc vous enlevez même pas la peau, vous coupez en tranches votre minster et vous mettez une partie du minster sur votre gratin. Vous poivrez et vous déposez le reste de pâte par-dessus votre minster et vous finissez par des tranches qui vous restent de minster. Et ça, vous allez enfourner ça 5 à 10 minutes pour faire fondre juste le minster, qu'il soit fondu. Et vous allez sortir du four et au moment de servir, vous parsemez de persil ciselé, persil plat ciselé. Vous allez servir très chaud. Ce fromage qui fait qu'on fait fondre sur les pâtes, c'est un vrai délice. Et alors c'est vrai, il y a ce parfum qui est assez lourd. On peut pas appeler ça un parfum parce qu'un parfum ça sent bon, et c'est plutôt une odeur. Ça met au goût, vous allez voir, avec le mélange de spätzle et plus de lardons, c'est divin comme goût. Voilà, pensez à servir avec une belle salade. Voilà, on mange ça avec une salade ou rien, mais moi je sers ça avec une salade. Je trouve que ça passe mieux, et puis ça fait quand même un légume vert. Nathalie, tu peux peut-être nous dire les spätzle, d'où ça vient, c'est quoi exactement?
Alors, les spätzle ou spätzle, je pense on peut dire, en haut alémanique, spätzli, sont une préparation culinaire de pâtes de la région rassemblant l'Allemagne du Sud, la Suisse et l'Italie alpine et l'Autriche de l'Ouest et l'Alsace-Moselle. C'est beaucoup, beaucoup. Spätzle est un mot souabe, diminutif de spätzen, qui veut dire moineau. On doit ce nom au fait que lorsque les spätzle sont cuits, et mis dans une assiette, cela ressemble à un nid de moineaux. En région Franche-Comté, on les connaît aussi sous le nom familier de guilles d'âne. Elles sont la variante plus fine et allongée des snoffel ou sneffel, qui signifie petit bouton. Dans de nombreux dialectes de l'allemand supérieur, comme le bas alémanique ou le souabe, et qui prennent le nom locaux en Hongrie ou en Slovaquie. De fait, suivant les régions, les termes sont interchangeables, tant ils désignent en gros un même plat de pâtes aux œufs servant d'accompagnement au plat en sauce. Au demeurant, on associe de nos jours les spätzle plus à des pâtes faites maison, tandis que les sneffel rappellent plutôt à la forte majorité les gnocchi ou les quenelle. Donc aucun Alsacien ou Souabe ne traduirait spätzle par quenelle ou boulette. S'il existe une relation hiérarchique à faire, ce sont les snoffel qui forment la famille générique dans laquelle les spätzle sont une adaptation reconnaissable à la forme.
Bien, merci Nat. Alors, c'est beaucoup en Alsace qu'on mange, oui. Mais en Alsace-Moselle, donc ne mélangeons pas non plus. Ouais. Ils ont tendance à ne pas mélanger. Voilà. Merci Nathalie. Mais moi, il y a une chose que j'aimerais bien que tu me parles sur le Münster, justement.
Ouais, alors c'est la recette de ce fromage aurait été laissée aux Vosgiens, c'est-à-dire aux habitants du massif Vosgien, aussi bien du versant alsacien que du versant lorrain, au 9e siècle, par un moine irlandais lors de son passage. Alors, il y a une autre hypothèse qui est que la recette remonterait à l'époque de Charlemagne, lorsque des moines vinrent christianiser l'Austrasie en fondant un monastère dédié à Saint Grégoire, dans la vallée de la Fecht, entre Gérardmer et Colmar, apportant leur savoir-faire dans la fabrication de fromage. Le monastère, Monasterium en latin, un peu de culture, donna son nom à l'endroit où il est établi, qui par déformation phonétique du latin à l'allemand devint Münster puis Münster, nom de la commune aurinoise où se situe le monastère. En alsacien, le Münster se dit justement « Attention, je me lance, Münstersterskas », je le dis certainement mal, je m'excuse auprès des Alsaciens, c'est-à-dire fromage de Münster, la commune de Münster. Le savoir-faire du Münster se diffusa dans tout le massif vosgien via les abbayes locales, y compris dans le versant lorrain du massif, où il est produit sous le nom de Jérôme, par altération dans le dialecte local du nom de Gérardmer, comme situé justement du côté lorrain des Vosges, et qui donna son nom à ce fromage, car c'était là qu'il était vendu dans les foires. C'est ainsi que le fromage existe depuis le Moyen-Âge, sous deux dénominations différentes, selon qui les produits dans les Vosges, du côté alsacien, donc Münster, ou du côté lorrain, Jérôme, reconnu par l'INAO sous le nom de Münster Jérôme. Les paysans avaient pris l'habitude de régler une partie de leurs impôts au duc de Lorraine en livrant ce fromage. Les chaumes du grand pâturage avaient été affermées en bloc à une communauté qui envoyait paître ses troupeaux pendant 270 ans, donc de 1300 à 1570, et sans interruption, les marquaires de la riche communauté de Münster au Val Saint-Grégoire ont amodillé le grand pâturage. La ville de Münster fut par la suite membre de la décapole relevant de Saint-Empire romain germanique.
Eh ben, dis donc.
Il y en a des choses à dire sur le Münster.
Ah, oui, oui, oui. Bon. Et donc, on voyage hein, aujourd'hui
on voyage.
Entre l'Italie, l'Alsace, l'Allemagne. Bien. Bah, écoutez, après ces belles histoires, faut bien ça après un tel fromage, hein, quand même, hein, des belles histoires. Donc, bah, je vous propose une pause et on se retrouve tout de suite pour avant le dessert.
We're gonna make it happen. Tonight we'll put all other things aside. Give him this time and show me some affection. We're going for those pleasures in the night. I want to love you, feel you, wrap myself around you. I want to squeeze you, please you. I just can't get enough.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici pour passer au dessert. Donc, on va. Je vous propose de faire le carré moelleux au pruneau. Donc pour cette recette, il vous faudra prévoir 10 minutes de préparation et puis 15 minutes de cuisson. Au niveau des ingrédients, on aura besoin de 400 g de pruneaux dénoyautés, 2 œufs, 250 g de sucre roux, 300 g de flocons d'avoine et 20 g de farine. 200 g de farine complète. Moi, je vous ai dit en début d'émission que je préférais de la blanche, mais voilà, c'est l'une ou l'autre. Comme vous souhaitez. On aura besoin de 150 g de beurre, de 2 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à café de levure chimique, 1 cuillère à café d'arôme de vanille. Et au niveau du matériel, on aura besoin d'un saladier et d'un fouet, d'une cuillère en bois et d'une plaque allant au four et puis du papier cuisson, bien évidemment. Donc dans un premier temps, vous allez prendre un saladier et y mettre les œufs et le sucre roux. Et vous allez fouetter, donc avec le fouet bien évidemment, donc de façon à faire un petit peu mousser ces œufs et ce sucre roux. Donc ça va pas blanchir hein, puisque le sucre roux ça va plutôt être un marron très très clair, et l'idée c'est que vous fassiez mousser et que vous mélangez bien le sucre roux et les œufs. Donc je dirais à chaque fois hein, force et courage, parce que fouetter des œufs comme une belle omelette mousseuse hein. Voilà, vous aurez plus vous allez fouetter et plus vous allez donner un maximum de légèreté à votre gâteau moelleux. Il faut savoir que c'est quand même un comme on va mettre des flocons d'avoine et que on va mettre des pruneaux, c'est quand même un peu consistant. Donc plus vous allez fouetter, plus vous allez faire rentrer de l'air et meilleur ce sera. Quand vous avez fini donc de fouetter au maximum pour apporter de la légèreté à ce gâteau, vous allez incorporer le beurre ramolli. Alors pour ça, le beurre c'est mieux de mettre à température ambiante. Hein, c'est faut que ce soit un petit peu comme une pommade. Hein, donc juste un conseil, vous le sortez du frigo bien avant pour qu'il prenne la température ambiante. Voilà, ça sera plus facile à travailler. Vous le mélangez donc à ces œufs et puis ce sucre, et vous allez rajouter l'arôme de vanille. Ensuite, vous mettrez la farine, vous mettrez la levure chimique et vous mélangez avec une cuillère en bois. C'est plus facile parce que le fouet, ça va être plus dur parce qu'on a quand même une pâte épaisse. Ensuite, vous allez rajouter à la préparation le lait et puis les pruneaux. Donc, dénoyautés et que vous aurez coupé en morceaux. Plus vous avez des petits morceaux, au mieux ce sera. C'est surtout pour pouvoir les manger, que ça soit plus facile. Et vous rajouterez aussi, évidemment, les flocons d'avoine et vous allez mélanger le tout. Voilà, c'est tout aussi simple. Vous allez avoir une pâte qui va être fort épaisse et vous allez déposer cette préparation sur des plaques de cuisson. Sur laquelle vous aurez mis du papier de cuisson. Vous le mettez bien à plat, vous l'étalez, vous allez voir, ça va s'étaler tout seul, et vous mettez au four pendant 15 minutes. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est sans mettre les pruneaux au départ, ça c'est une variante. Vous mettez pas les pruneaux tout de suite, vous préparez la préparation comme je viens de vous l'indiquer, sans mettre les pruneaux. Vous étalez une première couche sur la plaque, vous étalez vos pruneaux et vous recouvrez de pruneaux. Donc ça veut dire que votre pruneau il va être au milieu. Voilà, ça peut être cette
variante. Pruneau pâte.
Voilà, c'est pas de pruneau, c'est comme un millefeuille sauf qu'il y a trois feuilles. Voilà, donc ça peut être une variante, c'est suivant ce que vous avez envie de faire et que l'aspect que ça peut être. Vous allez donc enfourner 15 minutes à 180 degrés. Je vous rappelle, le thermostat c'est à peu près 6. Vous allez laisser refroidir à la sortie du four, vous laissez refroidir et après vous le découpez dans les morceaux. Donc ça peut être en carré, ça peut être en triangle, en bande, voilà. Vous laissez bien refroidir. Tout ça, ça va bloquer ensemble et ça va super pour emmener. Vous mettez ça dans un papier film et vous emmenez ça au goûter quand vous faites du sport. Voilà, ça, c'est où à la collation de 10 heures pour ceux qui prennent ça. C'est vraiment une barre énergétique et qui va vous apporter tous les bonnes énergies, on va dire. Voilà. Et puis en plus, ça va embaumer ce doux parfum. Vous allez voir ce parfum de pruneau cuit mélangé au flocon d'avoine. C'est un parfum doux dans la cuisine, c'est super agréable. Voilà pour le moelleux au pruneau. Assez simple, encore une fois, à réaliser et très bon pour le petit ventre. Nathalie, tu peux peut-être nous dire quelque chose sur le carré du pruneau ?
Oui, alors le carré au pruneau, d'après les études archéologiques d'origine, l'origine de l'avoine, elle remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Romains et les Grecs considéraient l'avoine comme une mauvaise herbe, plus adaptée à l'alimentation animale. Avant d'être utilisée en cuisine, l'avoine était considérée comme une plante médicinale. C'est en Écosse, en Allemagne, en Irlande et en Scandinavie que le flocon d'avoine a connu sa popularité. C'est ensuite que la consommation de porridge a explosé dans ces pays. Les ménages écossais avaient même des tiroirs à porridge où le porridge non consommé était stocké et consommé comme des barres de céréales. Les Écossais ont finalement apporté de l'avoine en Amérique du Nord au XVIIe siècle. Et en 1877, Quaker Oats est devenue la première marque déposée de cette céréale pour petit déjeuner. De là, le flocon d'avoine est devenu la première céréale consommée au petit déjeuner.
Merci Nat. On a parlé du carré au pruneau. Les pruneaux.
Bah oui, les pruneaux. Alors c'est Hubert Cayavé, qui est un ingénieur horticole travaillant à la station de recherche viticole d'arboriculture fruitière près de Bordeaux. Il supposait que la prune dente aurait été introduite d'Orient à l'époque des croisades et fut multipliée d'abord dans les vergers du monastère bénédictin de Clairac, dans le Lot-et-Garonne. Ce sont probablement les moines qui les premiers ont pratiqué le séchage de la prune. Cette variété était appelée autrefois prune d'Agen ou prune d'Ath. L'appellation dente semble avoir été donnée pour la première fois en 1846, parce qu'à cette époque, on remarqua qu'il était préférable de lenter. L'apostrophe, le verbe. Sa culture est avérée au XVe siècle. Le docteur Tari de la Société d'agriculture d'Agen a publié en 1821 un article justifiant l'utilisation du terme « pruneau d'Agen » pour cette production. En effet, l'épicentre de la production se trouve à 30-40 km au nord, vers Saint-Livrade du Lot et Villeneuve-sur-Lot, mais c'est bien du port d'Agen que partaient autrefois les embarcations vers Bordeaux, puis le reste du monde. Le pruneau était un aliment favori des marins au XVIIe siècle et au XVIIIe et des colons au XIXe siècle grâce à son aptitude à conserver ses qualités de fruits au cours de longs transports et à prévenir du scorbut. La culture du prunier dente a été proposée au XIXe siècle dans le Nouveau Monde. Cette culture, à partir de plants importés de la région d'Agen, a connu un grand succès en Californie, mais aussi en Afrique du Sud, en Australie, en Argentine et au Chili, pays devenus concurrents du pruneau d'Agen sur les marchés internationaux.
Eh bien, merci Nathalie. Là encore, on voyage, mais entre les bénédictines et les moines...
C'est beaucoup les moines, en fait, qui ramènent les aliments.
C'est surtout qu'ils les cultivent, parce que, effectivement, oui, dans les monastères et les bénédictins... ils ne savaient pas quoi faire, donc ils cultivaient, en fin de compte. Ils ont fait plein de choses et ils perdurent à faire ces choses-là. Et c'est très, très bien. Moi, je trouve que c'est chouette. Si vous avez l'occasion de visiter des cultures, des monastères et puis des monastères où vous avez des moines et des bénédictines, allez-y parce que ça vaut vraiment le coup et ils ont un savoir-faire qui est extraordinaire. Voilà. Bah, écoutez, après ces belles histoires, on se retrouve... je vous ai prévu quelques petits bonus. On est à un mois de Noël. Donc, allez, quelques petits bonus après cette pause.
Je ne suis pas ta malhonnête, t'es malhonnête.
20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors, nous revoici. Et puis, avant la pause, je vous avais dit qu'il allait avoir des bonus. Et comme on est à l'approche de Noël, ça tombe bien. On a prévu de vous proposer du vin chaud. Voilà, pour se réchauffer un petit peu à l'approche de l'hiver. Vous allez voir, c'est pas très très compliqué à réaliser. Donc je vous donne déjà les ingrédients. Il faut à peu près 1,5 litre de vin rouge. Alors ça peut être du Bordeaux, du Bourgogne ou du Pinot Noir. C'est comme vous voulez. Bon, l'important c'est qu'il soit bon, parce que à l'arrivée, s'il est pas bon, il sera pas bon à l'arrivée. Pas trop mauvais, mais pas trop bon non plus. Hein. Faut pas que ça gâche.
Faut pas gâcher un bon vin.
Voilà, premier prix, c'est bien aussi. Il faut pas que ça soit du vinaigre. Vous aurez besoin donc d'un litre 5 de vin rouge, de 250 g de sucre roux, d'un zeste de citron, d'un zeste d'orange, de deux bâtons de cannelle, deux étoiles de badiane. Donc, je vous rappelle que c'est la fleur d'anis. Hein, donc ça, vous le trouvez dans toutes les épiceries ou sur le marché, vous pouvez en trouver. Donc deux étoiles de badiane ou de l'anis étoilé, c'est voilà. Deux clous de girofle, un morceau de gingembre que vous aurez émincé, et puis une orange et une pointe de muscat. Pour ce qui est de la recette, c'est simple. Vous allez mettre dans une casserole, vous les allez mettre tous les ingrédients dans une casserole. Je vais y arriver, excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Vous allez donc mettre le vin, le sucre, la cannelle. Ensuite, vous allez mettre les clous de girofle, le gingembre, les noix de muscade, les zestes. Vous allez porter à ébullition très doucement. Faut laisser frémir pendant 5 minutes. Et vous allez servir votre vin chaud dans des verres en filtrant à l'aide d'une passoire si vous le souhaitez ou pas. Ça, c'est comme on veut. Enfin, moi, perso, j'aime bien le filtrer de façon à ce que je n'ai pas ces granulés, tous ces ingrédients. Vous le filtrez, vous servez bien chaud. Voilà, et vous mettez votre petite rondelle d'orange par-dessus. Ça parfume encore plus, et voilà. C'est aussi simple que ça, le vin chaud. Alors, j'ai une deuxième recette. On est toujours dans la période de Noël. Pour ça, je vous propose de réaliser un chocolat chaud. Voilà. Alors, il y a pour les alcooliques et les non-alcooliques, on va dire. Le vin chaud, voilà, il faut savoir que c'est pas pour les enfants. Le chocolat chaud, c'est mieux pour les enfants. Voilà. Je vous rappelle quand même qu'il ne faut pas abuser de l'alcool. Voilà, c'est pas bon. Même si ça réchauffe le cœur, ce n'est pas bon.
Puis surtout, faut rester chez soi. En fait, quand on boit un vin chaud, il faut.
Il faut rester chez soi.
Il faut pas prendre la voiture.
Rien que d'en parler, c'est pas possible. Alors, pour ce chocolat chaud, là, on change d'univers. C'est plus goûteux, plus crémeux. On va avoir besoin de 2 litres de lait, 2 tablettes de chocolat. Donc les tablettes, c'est en général, quand je vous donne les recettes, les tablettes font 200 grammes.
Oui.
Hein, donc 2 tablettes de 200 grammes pour 2 litres. Après, si vous voulez en faire moins, vous divisez. Pour la cuillère, les cuillères, on va mettre 3 grosses cuillères de crème fraîche épaisse et 4 cuillères à soupe de sucre, un extrait de vanille et puis une petite pointe de cannelle. Pour la recette, toujours pareil, vous allez mettre votre lait dans une casserole à feu doux et vous allez attendre que le lait soit tiède. Donc il ne faut pas qu'il boue. On est bien d'accord. Donc, dès que votre lait est tiède, vous allez mettre le chocolat. Alors, bien évidemment, le chocolat, vous l'aurez coupé en petits morceaux, en petits carrés, de façon que ça soit plus rapide à faire fondre. Et vous allez le mettre mélangé au lait tiède en remuant tout doucement. Quand je vous dis tout doucement, c'est vraiment tout doucement. De façon à ce que le mélange du lait et du chocolat se fasse gentiment. Une fois que votre mélange est fait et parfait, que vous n'avez plus de traces de gros chocolat, hein, de carrés de chocolat, vous allez ajouter de la crème fraîche par-dessus et continuer à remuer, même à fouetter. Hein, donc, vous fouettez un maximum. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Enfin bon, si votre chocolat est bien fondu avec le lait tiède, il ne faut pas que non plus la préparation ne boue. Donc, vous faites attention à maintenir cette température très douce. Et vous allez mélanger donc votre crème fraîche de façon au fouet, hein, de façon que ça fasse un petit peu mousseux, que ça mousse au maximum. Et vous ajoutez le sucre tout en fouettant, l'extrait de vanille, et puis pour le goût, ça dépend du goût, la cannelle. Moi perso, la cannelle, j'en mets, mais pas de trop. Si vous en mettez trop, c'est fort parfumé, oui. Vous faites attention. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est mettre une pincée, quand j'ai servi dans ma tasse, je mets juste une pincée au-dessus. Donc si vous le fouettez vachement fort, ça va faire une mousse un petit peu, alors pas chantilly, mais un petit peu bien mousseux. Et je mets ma pointe de cannelle derrière. Voilà, c'est le goût du chocolat, masquera de toute manière, si vous en mettez pas trop, la cannelle. Mais bon, vous y allez doucement avec la cannelle, hein. Moi, j'avoue que je ne cours pas tellement après. Voilà pour ces 2 recettes qui peuvent être sympas au moment de Noël.
Ou les soirées fraîches, voilà.
Ou les soirées fraîches, oui, oui, oui. Alors, le chocolat chaud, ça peut être à n'importe quel moment. Hein.
Bien sûr.
C'est à 4 heures.
Vous rentrez d'une promenade, vous avez un peu froid, on prépare ça.
Exactement.
Et pour les plus gourmands, petit peu de chantilly sur le dessus. Ça fait
alors, il y a déjà de la crème fraîche, Nathalie, là,
oui,
faut pas abuser.
Non, mais j'ai dit pour les plus gourmands.
Non, mais pour les plus gourmands, non, mais j'hallucine. Mais non, Nathalie, on va pas trop abuser. Il y a quand même de la crème fraîche, du sucre, du chocolat. Voilà.
Chantilly légère, faites maison.
Alors, dans ces cas-là, je te donne une variante. Tu fais ton chocolat chaud avec ton lait et tu montes ta chantilly.
Tu montes
ta crème en chantilly et là, au moment de servir ton chocolat tiède, parce qu'il ne faut pas qu'il soit brûlant, tu mets ta chantilly par-dessus et tu mets une pincée de chocolat amer dessus. Voilà, là je suis d'accord.
D'accord.
Tu vois, tu le fais dans ce sens-là.
On va plus faire comme ça.
On va faire comme ça. Alors, de mémoire, je pense qu'on vous a donné des recettes de gâteaux aux amandes, de gâteaux aux noisettes.
Ouais.
On a donné des palets, des sablés au chocolat et vanille. Ça peut se manger aussi à 4 heures ensemble. Ça peut être très, très sympa. Voilà. Et puis ça réchauffe aussi bien que le vin chaud.
Oui.
Hein, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous propose une courte page musicale et on se retrouve tout de suite.
Je l'aurais prié, mais sans jamais devoir attendre. Tu sais, j'ai des choses à prouver. Parfois le réveil est violent. Et voilà, je me suis plantée. Moi qui voulais pas redescendre. Comme un lendemain de soirée. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. On veut plaire, moi la première, évidemment. Des fois j'y arrive, souvent je me trompe, tant je recommence et puis j'apprends. Des fois j'oublie d'être moi-même, mais finalement, je finis par le payer. Je finis par oublier.
Sa place au sommet sans vouloir attendre.
On pense que évidemment
tu vas tomber, faudra te relever.
On perd, on revit, on se lève, on reprend.
On pense que évidemment
si c'était facile, ça saurait.
Évidemment
tu vas tomber, faudra te relever.
On pense que
j'étais krillin, j'ai commencé, j'étais nul. J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant. Je peux le redevenir en moins d'une minute. La route est longue, elle est sinueuse. Tu vas tomber, faudra se relever.
Okay.
Vie rapide, tu seras plus vite, vieux. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret.
Okay.
Y aura des requins, des démons, des sirènes. Y aura des fautes, des trahisons, des migraines. Oublie les soirées, jours fériés, les week-ends. Ils t'haïront pour les mêmes raisons qu'ils t'aiment. Y a pas de cheat code, crois pas leur arnaque. Que du travail, un peu de chance et du karma. Même le bonheur, c'est sympa, mais c'est pas stable. C'est juste une pause entre deux trucs qui se passent mal.
Évidemment,
tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre.
On pense que évidemment,
tu vas tomber, faudra te relever.
On perd, on revit, on se lève, on reprend.
On pense que évidemment,
si c'était facile, ça saurait.
Évidemment,
tu vas tomber, faudra te relever.
On pense que
juste la ligne d'arrivée. On voit jamais les obstacles qui viennent avant. Et la patience nous a quittés. On voit jamais l'effort et les conséquences. Évidemment, évidemment,
tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre.
On pense que évidemment, évidemment,
tu vas tomber, faudra te relever.
On se lève, on reprend, on pense que évidemment.
Si c'était facile, ça saurait.
Évidemment.
Tu vas tomber, faudra te relever.
On pense que évidemment.
Évidemment.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Et nous revoici. Alors, pour vous donner une petite idée, moi j'aimerais bien, Nathalie, que tu nous dises d'où vient ce chocolat chaud dont on a parlé avant la pause musicale.
Oui, alors le chocolat chaud. D'abord, le chocolat, les archéologues ont trouvé des preuves de la consommation de chocolat par les Mayas. Et ça, dès 500 avant Jésus-Christ, et certains pensent que le chocolat est même antérieur aux Mayas. Pour préparer la boisson chocolatée, donc, qui était servie froide, les Mayas broyaient les graines de cacao pour en faire une pâte, qu'ils mélangeaient avec de l'eau et de la farine de maïs, avec des piments aussi et d'autres ingrédients. Le chocolat était disponible pour les mariages de toutes les classes sociales, bien que les plus aisés le buvaient dans de grands récipients à bec, qui étaient souvent enterrés avec les élites. Une tombe maya au début de la période classique, c'est-à-dire 460-480 avant Jésus-Christ, provenant du site de Rio Azul, au Guatemala, contenait des récipients portant le glyphe maya du cacao et des résidus d'une boisson chocolatée. Comme le sucre n'était pas encore arrivé sur le continent américain, on disait que le xocolate avait un goût acquis, ce que les Espagnols appelaient aussi, alors xocolaté serait une boisson composée d'une base de chocolat aromatisée à la vanille et d'autres épices qui étaient servies froides. La boisson avait un goût épicé et amer par opposition au chocolat chaud sucré moderne dont on vient de donner la recette. Quant à savoir quand le xocolate, alors je pense que c'est chocolat en fait, a été servi chaud pour la première fois, les sources se contredisent sur la date et l'auteur. Cependant, José de Acosta, un missionnaire jésuite espagnol qui a vécu au Pérou puis au Mexique à la fin du 16e siècle, parce que le 21e, a décrit le chocolat comme répugnant pour ceux qui ne le connaissent pas, ayant une écume ou une mousse d'un goût très désagréable. Pourtant, c'est une boisson très appréciée des Indiens, avec laquelle ils fêtent les hommes nobles qui traversent leur pays. Les Espagnols, tant hommes que femmes, qui sont habitués au pays, sont très avides de ce chocolat. Ils disent qu'ils le font en diverses sortes, les unes chaudes, les autres froides, les autres tempérées, et qu'ils y mettent beaucoup de ce chili. Oui, ils en font une pâte qu'ils disent être bonne pour l'estomac et contre le catarrhe. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. En gros, on ne va pas épiloguer trop longtemps, mais ça vient surtout des Mayas, du Guatemala et...
C'est là où il est le chocolat, le bon chocolat. Hein. Ouais. C'est des chaleurs.
Oui, c'est on en trouve pas mal au Brésil aussi, ce qui est Amérique du Sud.
Voilà, c'est là où on trouve le bon chocolat. Voilà.
Ouais.
Mais bon, on en trouve partout du bon chocolat. Et voilà, trouver la bonne qualité de chocolat, c'est quand même meilleur que le truc basique. Le truc basique, on peut s'en servir pour tout ce qui est gâteau.
Oui, c'est ça.
Mais pour un chocolat chaud...
Essayez de prendre une qualité un peu supérieure.
Un peu supérieure, voilà. Et surtout de mélanger avec le lait. Voilà,
oui.
Tiède, pas chaud, pas bouillant. Le lait. J'insiste là-dessus parce que sinon ça brûle. Mais écoutez, on arrive à la fin de notre émission. On vous a permis de connaître trois nouvelles recettes, deux bonus puisqu'on est vraiment à un mois de Noël. Voilà. Moi, je dirais que vous d'utiliser tout ce qu'on vous donne, aussi bien au niveau de l'histoire, au niveau de la poésie que Nathalie nous raconte, et les recettes. À refaire et à faire entre amis et en famille. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour et même heure. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon appétit et surtout prenez soin de vous et des vôtres aussi. Bonne soirée.
Bonne soirée.